Bienvenue dans l'heure du documentaire avec le dernier épisode d'une série consacrée au documentaire fiction. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre la dernière marche de Miklós Radnóti. C'était en 1944, quand l'Allemagne nazie continuait son alliance avec le pire. Adolf Eichmann tirait dans l'ombre depuis Budapest les ficelles d'une marche forcée qui conduisit sur 900 km de la mine serbe de Bor jusqu'à Abda en Hongrie des milliers de prisonniers juifs. Nombreux moururent en route et Martin Kénéen, qui a composé ce Sur les docks avec Vanessa Nadjar, entendit raconter par un proche aujourd'hui décédé cette dernière marche où le 9 novembre 1944, un milicien hongrois exécuta le poète Miklós Radnóti avant de jeter son corps dans une fosse. Rassemblant les témoignages, évoquant les poèmes retrouvés dans le carnet découvert au sein du charnier, reconstituant les pans manquants, ce documentaire fiction restaure une histoire en lambeaux.
Der springt noch auf.
Der springt noch auf.
La dernière marche de Miklós Radnóti. Abda, Hongrie, printemps 1946.
Entends-tu? On dirait que les prés soupirent. Mais arrête de creuser, tu m'agaces à la fin.
On me paye pour ça.
Crois-moi, ces juifs, on ferait mieux de les laisser là où ils sont. C'est jamais bon de remuer le passé.
Les Jidocs me fatiguent. Ça arrange toujours pour nous faire faire le sale boulot, même quand ils sont crevés.
Oh, dis pas ça!
Justice, travail et respect pour les travailleurs hongrois. Quand on y repense, Zalachi n'avait pas tort. Dire qu'ils l'ont pendu comme un traître.
Enfonce plus ta pelle ou on sera encore là demain.
Et toi? Chante quelque chose pour passer le temps.
Quel puanteur!
Je crois qu'on y est.
Attends, mais ils sont combien là-dedans?
Oh, je m'en cogne. Moi, quand je serai mort, je crois que je préfère être incinéré.
Tu respectes vraiment rien.
Et quoi? Au moins ceux d'entre eux qui sont partis en fumée, ils ont dans le ciel une tombe où ils sont pas serrés.
Dis pas ça.
Je te parie qu'ils cachent encore de l'or dans leurs vêtements.
Ça n'est pas merde! Ils sont en guenilles, ces macabées.
Et alors? On sait jamais. Et puis, pas question que je les laisse emporter quoi que ce soit au paradis.
Ils croient au paradis, les juifs.
Et pourquoi tu me demandes ça? J'ai une tête de rabbin, peut-être?
Les flics vont pas tarder.
Ouais, bah fais le guet, moi je leur fais les poches. Ah! Et qu'est-ce que je disais?
Qu'est-ce que c'est?
Non, rien. Un carnet.
Un carnet?
Prière de vouloir faire parvenir ce cahier d'écrivain hongrois Miklós Radnóti. La racine, terre et pluie lui donnent force et ses rêves ont la blancheur de la neige. Elle rampe et ruse pour sortir de terre et les cordes de ses mille bras se tordent.
Kúszik, stravasz a gyökér, karja akár a kötél. Le ver dans ses bras repose, à ses pieds trône le ver ronge l'univers. Mais rien ne compte pour elle de l'univers que la branche, le feuillage qui se penche. La racine qu'il admire pour lui distille son miel, son suc au parfum de ciel. Moi-même je suis racine, dans la vermine, là même s'élabore ce poème. J'étais fleur, racine suit, dans la terre, dans la nuit. Ici s'achève ma vie, tout là-haut pleure une scie.
Mine de bord, Yougoslavie, été 1944.
Oui. Donc, tu as ici la carte de partie de Yougoslavie.
Yvan Landler, survivant de la marche forcée.
La frontière a dû être ici, quelque part. Ah non, Timisoara, ça c'est déjà la Roumanie. Borela, ça c'est la Yougoslavie. Là, c'est la Bulgarie. Le chemin entre Belgrade et Bor, c'est au bord de cette route-là, entre Zagubica et Bor, qu'il y avait ces 7 ou 8 camps dans lesquels ont habité les compagnies hongroises et dans les autres italiennes. Donc il fallait aller jusqu'à Požarevac pour la construction de travaux pour le chemin de fer. Donc c'était dans cette région-là.
Charles Chani, survivant de la marche forcée.
Les mines de bord, c'est des mines de cuivre. C'est un endroit d'ailleurs absolument horrible, puisqu'il n'y a pas un arbre nulle part. C'est évidemment assez peut-être à 1000 mètres à peu près. Et alors, il y a beaucoup de précipices et il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils sont tombés au cours des extractions. Et ce sont des collines se superposées. L'extraction se faisait par des baguères, c'est-à-dire des machines qui faisaient des trous dans les minerais, et ensuite on les sortait, et ensuite on les sautait, et ensuite quand ça retombait, on les réunissait. Alors vous imaginez que c'était dangereux. C'était très dangereux, et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu par accident, c'était, je ne sais pas, à peu près une cinquantaine de morts par accident. C'est les deuxièmes plus grands cuivres d'Europe. C'est un endroit assez horrible, mais on peut s'y habituer, on s'est habitué. Il y a à peu près plus de milliers de personnes qui travaillaient là. Alors, les Juifs hongrois, bien sûr, il y en avait peut-être 1500 à peu près, 1200-1500. Et puis il y avait tout, il y avait des Italiens, il y avait des Serbes, il y avait des prisonniers de ceci ou cela. Il y avait pas mal de monde.
Il y avait un accord entre Hongrie et l'Allemagne, que la Hongrie met à disposition des Allemands 6000 juifs pour l'exploitation de cette mine de cuivre, et en contrepartie, la Hongrie peut recevoir, je ne sais pas combien de tonnes de cuivre par an. Donc on était objet de marchandage, et donc il y avait deux activités, l'une était extraire les minerais, et deuxièmement, construire une ligne de chemin de fer pour amener ces minerais jusqu'au Danube, où ils devaient être embarqués dans des bateaux et amenés en Allemagne.
Est-ce que vous savez, Charles Chani, ce que Miklós Radnóti a pu être amené à faire dans cette mine de bord où il y avait plusieurs chantiers ?
Il n'était pas dans les mines de bord. Il était dans une autre, parce qu'il y avait d'autres éléments qui sont ajoutés à ça, toute une série de mines, plus exactement, plutôt des passages, parce qu'ils voulaient relier les mines de bord au Danube pour avoir une facilité pour évacuer les minerais. Donc, personnellement, je ne les connaissais pas.
Paris. A Boulevard Saint-Michel s a rűküzse sarkán egy kissé lejt a járda. Nem hagytalak el, gyönyörű vadifjúságom. Hangod, mintha tárna, vízhangzana. Szívemben szól ma még. rue Monsieur le Prince Sharkan, la côte à Pek. Au coin du Boulmich et de la rue Cugès, le trottoir un peu s'incline. Je ne t'ai pas laissé, ô ma belle et folle jeunesse. Et dans ce puits de mine, mon cœur, ta voix résonne et devant les yeux, j'ai la rue Monsieur le Prince avec son boulanger.
On était à trois dans un lit. On avait assez peu à manger. On mangeait qu'une fois par le soir. À midi, on ne mangeait pas. C'était surtout très dur par l'atmosphère qui régnait. Il y avait des surveillants hongrois qui contrôlaient tout ce qu'on faisait. À un moment donné, il y a eu des gens qui se sont évadés, qui ont été repris et qui ont été exécutés. Et ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire, le pire qu'on puisse faire. Par exemple, pour qu'on ne puisse pas nous évader, on a changé nos chaussures, ils ont enlevé nos chaussures, ils ont donné des sortes de chaussons, on n'avait absolument pas marché. Alors pour faire monter dans les mines, n'est-ce pas, avec ça, c'était effrayant.
Lager Heidenau, non loin de Bord, dans un baraquement de prisonniers, été 1944.
J'en ai marre. Il n'y a plus rien dans la soupe. Ni rave, ni orge, ni chou. Même pas une pomme de terre.
Au moins, c'est chaud.
Et tu te souviens, dis, quand la soupe était grasse, elle faisait un bruit boueux. Elle était presque noire. J'ai encore faim. J'en ai marre. Je mangerai même des épluchures, cuites dans une vieille boîte, avec de l'eau et cette graisse qui sent le caoutchouc.
Toi,
tu peux parler. T'as été drôlement bien servi. Elle est belle, ta soupe.
Laisse-moi manger, je te dis. Tu n'avais qu'à pas boire la tienne aussi vite. Allez, écarte-toi de ma paillasse. Ferme ta grande bouche ébréchée.
Et qu'est-ce qui danse au fond de ton bol?
Du porc. Non, c'est vraiment du porc. Il y a varié qui plus est. J'en ai échangé un morceau hier contre ma chemise, un civil qui travaille à la mine.
Je croyais les juifs meilleurs en affaires.
C'est pas cachère, mais ça me permet de pas maigrir trop.
Ça a quel goût? J'en ai marre, j'en ai marre! Marre! J'ai encore faim.
Tais-toi.
Borschot Fusten, Jol Meg Schurstom, Megish Paprikastom, Abele Babele Fusch. Borschot Fusten, Jol Meg Schurstom, Megish Paprikastom, Abele Babele Fusch. Hé! Miklos! Miklos, que fais-tu?
Arrête de l'emmerder, tu vois bien qu'il écrit.
Dans le noir?
Exactement.
Et à qui il écrit?
À Fanny.
Hetedik ekluga. Látod-e? Esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad tölgykerítés, bakra oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, az tudja a drót feszülését. Szetje még lóg.
Látod-e, drága?
Vois-tu?
Képzelet itt.
Le soir tombe et les baraquements, le barbare enclos de chêne ourlé de barbelés, à force de flotter, se résorbe dans le soir. Notre captivité, Lentement, le regard se détache de son cadre et la tension de Barbelé, la raison seule encore en garde connaissance. Vois-tu, mon amour, même le rêve ici, ce n'est qu'ainsi qu'il se libère. Nos corps brisés, c'est le sommeil, merveilleux sauveur qui les délivre, et c'est l'heure où le camp prend en chemin du retour. En haillons, le crâne rasé, les prisonniers ronflants s'envolent des cimes aveugles de Serbie vers un pays natal à le regard caché. Ce pays qui se cache. Oh, la maison existe-t-elle encore? Les bombes ne l'ont pas touchée. Elle est là, comme avant notre départ. Et celui-ci qui gît à gauche, à droite, celui-là qui gêne, rentreront-ils chez eux jamais? Dis-moi, y a-t-il encore un chez-nous là-bas où l'on comprenne cet éclogue? Sans les accents, griffonnant simplement vers après vers à l'aveuglette, j'écris ce poème dans le noir à l'image de ma vie, tâtonnant, arpentant le papier comme une chenille processionnaire. Lampes de poche, livres, carnets, les gardiens du lager ont tout pris. Et pas de courrier non plus. Sur nos baraquements ne descend que le brouillard. Parmi la vermine et les bruits alarmistes ici vivent français, polonais, italiens volubiles, serbes dissidents, juifs rêveurs dans la montagne, corps fiévreux, démembrés, et qui vit cependant d'une vie unanime dans l'attente de bonnes nouvelles, de douces paroles de femmes, d'un sort humain et libre. Et l'on attend la fin, la culbute dans les ténèbres, le miracle. Je gis sur le grabat, animal captif au milieu de la vermine. Les vagues d'assaut des puces nous harcèlent, mais l'armée des mouches déjà s'est apaisée. C'est le soir. De nouveau, tu vois, la captivité s'est raccourcie d'un jour. D'un jour aussi la vie. Le camp est endormi. La lune éclaire le paysage. De nouveau, les barbelés se tendent dans la lumière et l'on voit par la fenêtre l'ombre armée des sentinelles qui marchent projetées sur le mur au milieu des voies de la nuit. Le camp est endormi. Le vois-tu, mon amour? L'air est froissé de rêve. Un qui ronfle là-bas sursaute et puis se tourne sur la planche étroite et déjà se rendort. Et son visage rayonne. Assis là, je suis seul éveillé. Je sens la cigarette à demi fumée dans ma bouche au lieu du goût de tes baisers. Et point ne vient le sommeil qui soulage. Car je ne sais plus ni mourir, ni vivre sans toi désormais. Maintenant, tout ce qui est macron, il n'y
Subitement, c'était au mois de... juste un an avant la fin de la guerre, les Roumains et les Bulgares ont changé de côté. Alors, subitement, les Russes sont arrivés jusqu'à nous. On les a vus. Ils ont même tiré sur nous. Donc, tout a changé. Et alors, pour nous, c'était une catastrophe épouvantable.
Alerte! Les escadrilles soviétiques attaquent. Le travail d'embarquement est interrompu tandis que la DCA entre en jeu.
C'est bien, vraiment le mois d'août, lorsqu'on s'est retrouvé
Yvan Landler
sur ce plateau avec la vue et Rob Nauty qui a cité son dernier poème que je vais te lire et que Lofi qui jouait des extraits de Concerto de Brahms. Et on entendait les canons russes de l'autre côté de France. Et là, dans cette ambiance-là, que Rob Nauty a exposé son dernier poème, que je te dis parce qu'il était en contraste total, mais total, avec ce qu'on a ressenti là-bas.
À la recherche. Au soir paisible, d'autres fois plus beau encore en nos mémoires. Et toi, courant fleuronnant de poètes, de jeunes femmes, belles tablées, où glisses-tu sur la vase des jours passés? Où donc est-elle cette nuit où nous étions, mes frères, gris de frères gris, sablés dans une flûte svelte aux beaux yeux facetés? Des poèmes glissaient, voletaient dans la clarté des lampes, de splendides virides épithètes se balançaient sur la crête écumeuse des vers. Et les morts étaient en vie, et les captifs, les amis portés disparus étaient présents dans leur pays, et tous ceux-là faisaient des vers qui maintenant tombaient depuis longtemps reposant la terre d'Espagne ou de Flandre ou d'Ukraine. Il y eut des endroits où l'on vous transportait dans des wagons à bestiaux que l'on plombait, où l'on se retrouvait pétrifié sans armes au beau milieu d'un champ de mines. Il y eut. Mais qu'importe, où donc a-t-il le temps où nous trinquions comme des sages, d'affluer les feuilles de route, les poèmes tronqués de se multiplier, de se creuser autour des lèvres, sous les yeux des jeunes femmes au beau sourire, les rides. Les jeunes filles aux portes de fées seront allées s'alourdissant tout au long des années silencieuses de la guerre. Où donc est-elle cette nuit? Et l'auberge? Et la table sous les tilleuls? Où sont les survivants poussés, jetés dans la bataille à coups de bottes? Mon cœur entend leur voix. De leurs mains, mes mains se souviennent. Je me redis leurs vers, leur ébauche se déploie. J'en prends la mesure, parqué, muet, à la cime d'une serbie tout emplie de lamentations. Où donc est-elle cette nuit? Cette nuit plus jamais ne reviendra à ce qui fut. La mort déjà confère une autre perspective. Et ils sont là, partageant notre table, embusqués, dans le sourire des femmes, s'apprêtant à boire à notre verre, ceux qui, sans sépulture, au loin dans les forêts, dans la steppe étrangère, se sont pour toujours endormis.
Donc, c'est dans cette euphorie que je t'ai décrit qu'on entend ces paroles-là. Alors, la consternation était totale. Le contraste, si tu veux, écoute, tu entends des canons de loin, de l'autre côté, dimanche après-midi, ensoleillé, tu sais, c'est déjà fin d'été, chaleur, calme, pas de vent, rien ne bouge. La musique de Lofi, je dirais, c'était des grands moments de la vie qu'on a vécu là. Et bam, tout d'un coup, le coup de massue. Donc vraiment, il était sous l'effet d'une conviction profonde.
Parce que Radnoti était réaliste et les autres idéalistes. Radnoti avait raison. Peut-être les poètes voient plus vite que les autres.
Charles Chani.
Et en plus, quand on traduit ce poème-là, c'est magnifique, je trouve, évidemment magnifique, mais non seulement, et il y a une espèce de tristesse, mais pas méchant, en fait, pas désespéré. Une tristesse intrinsèque en quelque sorte.
France Actualité a reçu les images saisissantes de la lutte qui se déroule sur le front de l'Est, retraçant les épisodes d'une des plus grandes batailles de l'histoire. Depuis plusieurs jours, attaques et contre-attaques se succèdent. Bataille d'hommes et de matériel sans précédent. Les escadrilles de bombardiers décollent. Les avions soviétiques réagissent. Les Stuka bombardent et mitraillent l'ennemi en piqué, secondant l'action des forces terrestres. Un moment d'accalmie. On fait le bilan. Pendant plusieurs jours de bataille acharnée, des centaines et des centaines de chars bolcheviques ont été détruits. Les prisonniers sont groupés. Parmi eux, de véritables enfants. Et c'est par milliers que les prisonniers prennent le chemin des camps.
Camp de Bor, il y avait 5 gars qui se sont sauvés, voulant rejoindre les partisans. Pensant de tomber sur les partisans de Tito, ils sont tombés sur les partisans de Mihailović, qui collaboraient déjà un peu avec les Allemands, ils les ont remis aux Allemands. Et ces gars-là ont subi d'abord tous les jours 4 heures de pendaison. Et lorsque on s'est replié, le nommé Moragne, c'est le lieutenant-colonel, ayant peur qu'ils vont se sauver, il a demandé un coup de main du Gestapo local, qui ont fusillé. Dans le groupe dans lequel j'étais, et on a traîné ce genre de charrettes en métal, dans lesquels on a mis tout, quand on a passé toutes nos affaires personnelles et qu'on a tiré à tour de rôle, tout d'un coup, la colonne totalement allongée, encadrement, qui nous dépasse en disant « Allô, traînez pas longtemps, rejoignez-nous !» Tu vois, c'était la possibilité totale de se sauver, mais on ne sentait pas le danger. Et tout d'un coup, un de nous découvre au bord de la route un type qui était de la partie sud de Serbie, qui était en civil. Et il dit, mais où allez-vous? Je dis, mais ça y est, on rentre, etc. Il dit, écoutez, si vous voulez rester, moi je peux vous cacher. Et la conclusion, et j'ai déclaré beaucoup de honte, était, mais non, on va rentrer à la maison. Après coup, c'était... Enfin, il y avait une absence de mesure totale. En réfléchissant froidement, la guerre était terminée, mais pas pour nous encore. Et de dire que la guerre est terminée, les Allemands sont battus, c'était vrai. Les retours de manivelle, c'est toujours possible. Et on a refusé, c'était possible. Non. Si ça peut servir à quelque chose, toute cette description... c'est pour se rendre compte dans des conditions particulières combien un genre de vague de conviction ou euphorie peut totalement annihiler tout jugement valable. Qu'on vit dans un autre univers imaginaire. Que je l'explique comme évidence, on rentre à la maison. Mais lorsque tu vis dans tout ça, lorsque tu as vu le débandade des armées allemandes venant de... Lorsqu'on était à bord, on était dépassé par des colonnes allemandes qui remontaient de la Grèce en foutant le camp. C'est la fin. Qu'est-ce qu'on attend? C'est la fin. C'est trompeur. C'est un peu comme Hitler, lorsqu'il était dans le bunker, et tout était déjà fini, il était entouré. Il voulait à tout prix rentrer en contact avec une division allemande, la division de Steiner, qui pourra le sauver alors que la division des plus belles n'existait plus. Si on réfléchit, c'est très grave qu'on peut à tel point perdre le sens du jugement.
Sur le front de l'Est, le repli des troupes allemandes s'effectue méthodiquement. Rien ne doit être laissé entre les mains de l'adversaire et les colonnes de camions, les trains chargés de matériel utilisable roulent sans relâche vers les arrières du gigantesque front. Les prisonniers sont dirigés vers d'autres camps. La population, fuyant le cauchemar de la guerre, fuyant l'approche des troupes soviétiques, suit les armées allemandes en longues colonnes interminables.
On a marché à pied et on a fait à peu près 30 km par jour. Et là, on n'avait rien à manger. Alors les paysans, de temps en temps, nous donnaient à manger. Une fois, au cours de cet échange-là, un des gardiens qui était là a trouvé que c'était pas très bien. Il a tiré sur la personne, il l'a tué.
Il a tiré sur un prisonnier.
Un prisonnier. On lui a donné du maïs. Alors après ça, on marchait comme des automates. Jusqu'à Belgrade.
Erőltetett menet. Marche forcée. Bolond. Ki földre rogyván fölkél, és újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul.
Bien fou celui qui tombé, repart et marche avec nous, qui meut, errante douleur, ses chevilles, ses genoux, mais lui se remet en route comme un que porte des ailes. Restez. Il n'ose le faire, en vain le fossé l'appelle. Si l'on demandait pourquoi, peut-être parlera-t-il de la femme qui l'attend, d'un beau trépas plus subtil. Mais c'est encore le crédule, être fou. Depuis le temps, sur nos maisons ne circule que le vent brûlant. Les murs ne sont que décombres. Le prunier brisé n'a plus d'horreur. La nuit familière est comme un monstre velu. Que ne puis-je y croire encore? Ce n'est plus qu'un souvenir. Ce qui fait le prix de vivre. La maison où revenir. Notre vieille véranda, si fraîche où l'abeille rôde. Où refroidissaient les pots tout rempli de reines Claude, les derniers feux de l'été, les fruits nus qui se balancent, les vergers ensommeillés de soleil et de silence. Fanny, qui m'attend si blonde, sur la rousseur de la haie, a tracé de lentes ombres sa tarde la matinée. Ah oui, c'est possible encore, la lune est si ronde. Ami, attends-moi, crie après moi, je me relève et je te suis.
Il y a eu quelque chose qui est assez triste pour moi, c'est qu'on était 3600, chose comme ça, ils ont décidé de diviser le groupe en deux. Il y a une partie qui partait tout de suite, et ils ont considéré que c'était défavorisé, dont j'étais. Et puis les non-favorisés, ils partaient 3 jours après. Les non-favorisés étaient tous libérés par les partisans. Les favorisés ont fait le trajet jusqu'à, pour moi, à Buchenwald. Après Belgrade, jusqu'à Mohács, c'est ce qui est horrible, parce que c'est là qu'on avait un côté les Allemands qui fuyaient avec les autres nazis. Et de l'autre côté, il y avait les Allemands de la région qui fuyaient aussi mais qui en plus savait qu'il perdait tout, puisque les Russes étaient dans le dos, alors ils nous massacraient. Ah ben, la longueur de la marche est à peu près 900 kilomètres, jusqu'à la frontière, là. Puis après. Ma tête était vide, vide, complètement vide. Je pensais à rien qu'à manger. Vous imaginez pas, et c'était après, puisque après j'étais encore dans les camps de concentration. Ça s'est continué comme ça, pareil. On mangeait à peine, on nous a donné très peu de choses. On nous a donné deux fois par semaine, un peu de confiture avec un peu de pain, et l'autre fois une soupe, c'est tout. C'était ça, la nourriture.
Les chaussures du poète sont tachées de sang. Ses doigts sont tachés d'encre. Son regard s'accroche aux cailloux de la route, aux crêtes des montagnes, aux branches écorchées des arbres tordus. Le feuillage fourrage ses cheveux sans rien dire. La forêt saigne. Les coccinelles luisent dans la poussière. Mikloch a soif. Il écoute. Il entend bourdonner l'odeur des corps humains. Schnell, Djerunk, Djor Shaban. Son esprit nuageux s'accroche au passé. Jadis, on a saisi son livre. Superstitieux, Mikloch enfouit sous le seuil un papillon rouge porte-bonheur. Jido. Un cocotier criard brûle sur sa poitrine. Jido. En France, sur le mur d'une cathédrale, il a lu « Mort aux Juifs ». Et plus loin, « Vous ne tuerez pas la pensée ». Quelle était cette ville ? Il voudrait de ses doigts enserrer ses chevilles, et quand même il avance, les cuisses écorchées, les pieds malades, le ventre tordu, la cervelle en loques. Avance, condamné à mort ! Rouen, voilà le nom de cette ville française. Rouen au front de pluie, et Paris. Ses semelles de bois claquent sur les trottoirs mouillés, des noms sonores couvrent les cris des SS et de leurs auxiliaires souabes. Châtelet, Cité, Saint-Michel, Odéon, d'enfer, âpre juron, Mikloch a soif. L'Orchi avance à ses côtés, son violon en bandoulière. Il observe les gardes à la dérobée.
J'en ai marre. Je vais me foutre dans le fossé.
À quoi penses-tu, L'Orchi ?
Une fugue.
Bac.
Non, une échappée.
Je comprends.
Profitons de la nuit qui descend.
Je suis un taureau, L'Orchi.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Je vis maintenant encore comme un taureau. Il hume l'air, mais ne fuit pas comme s'enfuient les chevreuils. Il pense que si l'heure vient, il luttera, succombera. Que la horde dispersera ses ossements dans la campagne. Et lentement, tristement, il beugle dans l'air épais. Ainsi luttai-je, ainsi tomberai-je. Et mes os, la campagne les gardera pour que comprenne l'avenir.
Les troupes allemandes résistent avec acharnement aux forces soviétiques très supérieures en nombre et qui poursuivent leurs attaques sur un très large front. Dans son discours, Adolf Hitler s'adressait ainsi aux combattants. Ce que je demande aux soldats allemands est considérable. Le devoir des hommes du front est qu'ils rendent possible ce qui apparemment est impossible. Et le Führer ajoutait, c'est le dernier combat qui apportera la décision.
Je vais continuer jusqu'à un endroit qui s'appelle Chervinka. Nous étions mis dans une briqueterie pour passer la nuit, protégés ou surveillés par l'encadrement hongrois. Et tout d'un coup, il vient un groupe d'SS qui chasse l'encadrement, qui entoure et reprend le contrôle des gars qui dormaient là-bas. Et en réveillant le matin, on se trouve dans les mains de SS.
D'ailleurs, je peux vous dire comment j'ai survécu, moi. D'abord, n'est-ce pas, ils nous ont fait des trous partout pour préparer les cadavres, n'est-ce pas. Ensuite, ils ont décidé de pousser tout le monde sur le toit de la briqueterie. Mais Chervinka, c'était une briqueterie. Oui. Mais tous ces massacres étaient à Chervinka. Bon, ensuite, n'est-ce pas, on est descendu. C'est devenu le soir. Et on est descendu et je descends assez lentement et puis je regarde où est-ce que je vais me mettre. J'ai vu que tout était occupé déjà. Alors je suis allé glisser jusqu'au fond. Il y a toute une série de faux fours pour la public. Donc je me suis caché dans le dernier. Dans le dernier, je me suis mis à plat ventre et avec des lunettes et à plat ventre et pas bougé. Les SS sont entrés, ils ont vidé tout le monde. Et je veux dire, je suis à peu près sûr que ce fait que j'étais à plat ventre, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que à dos, n'est-ce pas, ils auraient vu ma chemise blanche. D'abord, ils ont liquidé tout le monde, ils ont tué tout le monde. Ensuite, ils sont revenus plusieurs fois pour vérifier s'il n'y a pas encore un qui reste. Il a soupçonné que j'étais là, il a tiré dans la direction, il m'a loupé, donc il n'a pas vu. Ensuite, il est revenu une deuxième fois, et il a aussi vérifié, et j'étais à plat ventre au fond, derrière un four. Il a dit subitement, au fond, pourquoi se fatiguer ici? Il n'y a plus personne. Puis ça partit. Et moi, je suis resté. C'est ça qui m'a sauvé. Et vous étiez peut-être une trentaine qui sont restés. Alors, on a marché. Il a dit, on ne vous tuera pas si vous savez marcher.
Rozglednicek. Három. Az ökrök száján véres nyál csorog. De muf de bœuf coule sang et bave.
Az emberek mind véresek.
Tous les prisonniers urinent du sang.
A század bűzös.
Nous piétinons là, fétidés fous.
Vadcsomókban áll.
Et souffle la mort au-dessus de nous.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
Il fallait se coucher par terre, tête en bas, coffre monde. Et alors là, il y avait des exactions de la part de la population. Mais ensuite, la SS est intervenue, et surtout, pas nécessairement la SS qui nous a encadrés, mais d'autres troupes en débandade. Et en particulier, il y avait un officier SS montant un cheval qui tirait sur les gens couchés par terre, suivant des critères qu'il était un qui avait des bottes, que l'autre avait été pieds nus. Donc la sélection au hasard.
Et depuis toute ma vie, je serai reconnu aux chevaux. Parce qu'ils ont traversé et personne n'était touché. Les chevaux ont touché personne. Tandis que les hommes, oui, ils en ont tué encore pas mal. Alors j'ai un grand respect pour les chevaux, mais pas pour les hommes.
Et il retrouve un gars par terre avec un violon attaché avec une ficelle sur le dos. Et le gars, il était à côté de Radnoti. Donc Radnoti, dans un de ses poèmes qu'il décrit, qu'en allemand, Er springt noch auf. Kolossi, lorsqu'il était atteint d'une balle, il a pu se lever encore. Et un autre SS qui est venu qui a donné le coup de grâce. Et lorsque moi je suis passé, donc après avoir parcouru 200 mètres, le violon était encore sur son dos, attaché avec la ficelle.
Mellé zuhantam, je suis tombé près de lui. Átfordult a testes, feszes volt már, mint húrhapattan. Comme une corde qui saute, son corps roide s'est retourné. La nuque, à bout portant. Et toi, comme les autres, pensais-je, il te suffit d'attendre sans bouger. La mort, de notre attente, est la rose vermeille.
Der spring noch auf!
Aboya-t-on là-haut? De la boue et du sang séché sur mon oreille.
Abda, Hongrie, le 9 novembre 1944.
Laisse-en-y. Descendez. Acheter. Creusez. Creusez, je vous dis, ici. Enfoncez plus vos pelles, vous autres. Et toi, Motskoshfeireg, pourquoi ne creuses-tu pas?
Miklos regarde les tueurs. Ils sont jeunes et hongrois, comme lui. Ils fument des bachari, fabriqués à Baden-Baden. Ils arborent un air brutal. Ils sont forts. Le moindre succès dilate leur corps, et faut-il tuer, ils donnent la mort. Les genoux de Miklos le portent à peine. Ses doigts sont douloureux. Ses paumes saignent sur le manche de la pelle, stigmate. Où est-il écrit que le Messie a creusé lui-même son tombeau ? Christ en automne. En guise de descente de croix, Miklos est descendu d'une charrette, accompagné d'une vingtaine de larrons en charpie. Il ricane. Une toux rauque le prend. Il essuie du sang sur ses lèvres. Il voudrait se rouler une cigarette, lentement, longuement, même une bachari ou une Laurens de Wiesbaden. Avoir dans la bouche encore une fois ce nuage gris au goût d'enfer. Au fond, il est comme les tueurs, jeunes et hongrois. Ils sont forts. Miklos aussi.
Violent, hideux. Ô maman, j'étais l'aîné de tes jumeaux, je t'ai tué. Mon frère était-il mort? A-t-il vécu quelques instants? Je n'en ai pas le moindre idée. Dans le sang, les gémissements, on m'a hissé vers la lumière, une jeune fauve triomphante d'avoir montré qu'il était fort. Derrière lui, deux morts.
Miklos se prend pour un tueur de femmes et d'enfants. Un assassin. Un minotaure, bientôt enterré vif, jeté la tête en bas dans une fosse à l'ancienne mode. Au bord du gouffre, il aperçoit les rocs entassés que le temps et la terre ébranlés précipitèrent du front des montagnes sur les flancs du Danube. Il cherche sa route dans ses fentes inclinées. Il ne voit, au bas de la paroi, qu'une petite fourmilière noire occupée à creuser un petit trou. Dans son manteau râpé, son carnet de poèmes palpite faiblement. L'encre de ses dernières cartes postales creuse dans le papier. Ses mots sont des fourmis. Le ver ronge l'univers. La rivière Rapcha serpente en contrebas. Pourquoi le soleil éclaire-t-il les prairies d'une lueur si chagrine et si froide? Pourquoi toute la terre est-elle grise et morne comme une tombe? Heine, Nerval, pas un d'eux n'a vu Abda comme il la voit.
Je ne sais pour autrui ce qu'est cette campagne, mais ce petit pays, c'est le mien que les flammes servent. C'est l'univers qui berça mon enfance. C'est lui qui m'engendra comme l'arbre, la branche, et puisse aussi mon corps un jour y reposer. Ici, je suis chez moi. Ce buisson à mes pieds, son nom, je le connais. Je connais la couleur de ses fleurs et le nom de tous les promeneurs. Et par un soir d'été, je connais la raison de ce flux de douleur empourprant les maisons.
Ashni, creusez. Vous aurez une tombe alors dans les nuages, où l'on n'est pas serré.
La fosse est large maintenant. Le soleil, haut.
Ich szólt, és beszélt vala Káin Ábellel. Ábel, testvérem, tegnap fölkeltett az ősi bűn. Et Káin parla, et dit à Abel, megöltem hófehér álmaidat. Abel, és hajszoltam magam kárhozó hiába valóság éjjeli útján. Hier, fagyott szomorú, le crime originel m'a fait lever. J'avais tué tes rêves blancs comme neige, et me traquais moi-même. Comme un damné sur le chemin nocturne de l'inutile, entre des rangs de tristes arbres gelés à la rencontre du matin. Mes rêves à l'odeur de soleil en fumant pleuraient après moi. Mon corps banni sur mon visage illuminait de nocturnes plaies pantelantes, les roses rouges du repentir. Et comme un mendiant, je t'appelais à de grandes retrouvailles qui rompent la malédiction. Toi, saint tu étais. Et la ferveur du sacrifice flottait dans l'air à ta naissance. Moi, le ciel en mon jour primordial, gravide, grondait. Ces lourdes crimes que je me suis détaché, première feuille de l'arbre amer qui geignait l'anathème. Et je fus Caïn. Le soleil se levait sur ma poitrine bombée, et la fatigue de mes genoux apportait le crépuscule quand je tuais, et que sur mes pas, tu répondais tes douleurs aux paroles traqueuses et que tu renversais sur ma route, gardien de ma fuite nocturne, les arbres tristes et gelés. Je trébuchais, ma chair sur la digue se déchirait et je tombais et noir, biblique, à nouveau je fuyais. Je suis Caïn et le péché originel hier m'a fait lever. Je suis Caïn, et toi, tu es Abel.
Ce docu-fiction est dédié à la mémoire d'Ivan Landler. Merci à Claudine Ripper-Landler, à Charles Chani, Zoltan Yenei de l'Institut hongrois de Paris, Christiane Placet, Jean-Luc Moreau pour ses indispensables traductions disponibles chez Phébus et Anaël Lebovitz. Avec les voix de Attila Thoth, Anne-Lise Heimburger, Fabien Orsier et Vincent Demet. Attaché de production, Christine Gage et Laurelaine Planchet. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, Jean-Louis Deloncle et Jean-Frédérix. Mixage, Marie-Thérèse Ferrand. Der Springt noch auf, la dernière marche de Miklos Radnoti, un docu-fiction de Martin Kenéen et Vanessa Nadjar.